L'émission de la maison sur Radio Évasion au temps du coronavirus. Vous nous écoutez sur le 100.4 FM du lundi au vendredi à midi et c'est rediffusé à 18h. Déplaçons-nous. Oui, on sait, on n'a pas trop le droit de se déplacer en ce moment. Et donc, on mesure aussi le prix et l'importance de cette liberté. Peut-être certaines et certains regrettent peu de ne plus devoir parcourir des kilomètres. Toujours est-il qu'on se penche aujourd'hui sur une enquête régulière menée dans le pays de Brest, l'enquête Ménage-Déplacement. Martin Clos est maître de conférence en aménagement-urbanisme à l'Institut de géoarchitecture de l'UBO et il est spécialiste des questions de mobilité.
Le pays de Brest, en termes de taille, ça représente finalement, grosso modo, le quart nord-ouest du Finistère. Donc ça comprend Châteaulin, Crozon, Landerneau, Lesnevin, Saint-Renan, Brest Métropole. Donc c'est un grand quart nord-ouest du Finistère et c'est un pôle métropolitain. En fait, il assure la coordination entre 7 intercommunalités et le pays de Brest représente approximativement 420 000 habitants. Donc c'est pas rien, c'est quand même un territoire qui a une population assez importante. Et en termes de répartition de la population, on a la moitié de la population qui réside dans Brest Métropole, c'est-à-dire les quelques communes autour de Brest, et le reste de la population, à savoir à peu près 210 000 habitants, pardon, dans les autres intercommunalités du pays de Brest.
Les moyens de transport, en plus, c'est peut-être ce qui est intéressant sur ce territoire, mais c'est qu'il y a un peu de tout, finalement, en termes de moyens pour se déplacer.
Alors, en termes de moyens de transport, effectivement, il y a un peu de tout. Alors, je vais distinguer peut-être ce qui relève des transports publics et des transports privés. Et en matière de transport public, on a, en fait, deux types de transports publics sur ce territoire-là. On a des transports collectifs qu'on va appeler urbains, et qu'on va retrouver à Brest et Brest Métropole. Donc c'est l'appellation, c'est le réseau Bibus. Et on va retrouver aussi des transports collectifs publics urbains à Landerneau sous la dénomination Arbus. Donc à Brest, le réseau il est particulièrement dense et étoffé. Et ensuite, on va retrouver des transports collectifs publics interurbains. Donc là, ce sont des cars, des TER, donc des trains, et pour ces transports publics interurbains, qui sont essentiellement en fait, des transports collectifs, l'autorité organisatrice est la région, finalement. On a sur ce territoire-là, en gros, trois grandes autorités qui organisent les transports publics, donc Brest Métropole, Landerneau et depuis peu la communauté d'agglomération de Landerneau, du pays de Landerneau, et donc la région. Et sinon, pour ce qui s'agit des transports privés, là, on a toute une panoplie de moyens de déplacement. On a la voiture, le vélo, la marche à pied. Mais là, on est sur des moyens de transport qui sont individuels et privés.
Et est-ce qu'il y a des spécificités de ce territoire, je ne sais pas, en termes de répartition de l'habitat, ou est-ce que c'est finalement un territoire qu'on pourrait qualifier de moyen? Ça, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais...
Bon, cette question, elle est très judicieuse, en fait. Et tous les territoires ont effectivement un petit peu leur particularité. Bon, la particularité du territoire du pays de Brest, c'est d'être ce qu'on pourrait appeler, ce que certains auteurs appellent une ville diffuse, finalement. Donc, c'est-à-dire un territoire où on retrouve une urbanisation qui est généralisée, mais sans être dans les canons de ce qu'on pourrait appeler la métropolisation avec des densités extrêmement élevées de partout. On a déjà un pôle métropolitain, donc une métropole, un Brest, et ensuite on a un ensemble de pôles qu'on pourrait appeler secondaires dans une vision hiérarchique. On a des villes, en fait, donc on a Landerneau, Lesnevin, Saint-Renan, Châteaulin, Crozon, qui jouent un rôle assez important en matière de structuration du territoire. Et puis, en dessous, finalement, dans une vision toujours hiérarchique, qui peut être contestée par ailleurs aussi, mais on a les bourgs. Et les bourgs, eux aussi, ils jouent un rôle assez important en matière d'organisation du territoire. Et cette particularité, finalement, de l'occupation de l'espace dans le pays de Brest, où on a des densités qui sont pas si élevées que ça, mais des densités qui sont pas si basses que ça non plus, donc des densités plutôt moyennes, et une distribution de l'habitat autour de la métropole, des villes, des bourgs, des villages. Donc on a une structuration un petit peu originale de l'habitat. Et ça a un impact assez important sur les pratiques de déplacement. On le voit assez bien quand on exploite les données de cette enquête.
Et justement, on va y venir. Donc, dans l'enquête, combien de personnes ont été interrogées pendant, sur quelle période à peu près
Alors, la période exacte durant laquelle a été réalisée l'enquête, je ne m'en souviens plus tout à fait. Donc, ça a été quand même une période de plusieurs mois, il me semble. À l'hiver, si je ne me trompe pas, à l'hiver 2017-2018. L'enquête, elle a permis, en fait, de s'entretenir avec un peu plus de 5000 ménages, donc 5510 pour être précis, et 7500 personnes de 5 ans et plus. Pour tous ces ménages et toutes ces personnes, on a renseigné un très grand nombre de données, en fait. Bon, par exemple, combien de voitures est-ce que le ménage possède, combien de vélos est-ce que le ménage possède, comment est composé le ménage, c'est-à-dire combien il y a de personnes dans le ménage, quel âge ils ont. Et on a ensuite renseigné donc les déplacements avec toute la panoplie des indicateurs qui permettent de renseigner très précisément ces déplacements, à savoir quelle est l'heure de départ du déplacement, l'heure d'arrivée, le motif, le point d'origine, le point de destination. Donc on a des renseignements extrêmement précis sur ces 5000 ménages et un peu plus de 7500 personnes de 5 ans et plus. Donc on a finalement une enquête qui porte sur à peu près entre 1 et 2% de la population. Donc un peu moins, quoi, un peu plus de 1,5% de la population.
Où vont les habitants du pays de Brest quand ils se déplacent ?
Alors où est-ce qu'ils vont ? Eh bien, ça dépend toujours de la nature du motif en fait du déplacement. Pour le motif travail, ils vont notamment se déplacer de façon assez prononcée, on va dire, vers Brest Métropole. Donc pas la majorité, hein, forcément, des déplacements s'orientent vers Brest Métropole pour le travail, mais on va dire une part significative des déplacements du pays pour le motif travail s'oriente vers Brest Métropole. Et alors c'est pas forcément le cœur c'est pas forcément le cœur de Brest, hein, le centre-ville de Brest, mais ça peut être le pourtour de l'agglomération et notamment les zones d'activité qui offrent en fait un nombre d'emplois assez important. Et donc, voilà, Brest Métropole joue ce rôle un petit peu de polarisation, donc d'attraction des flux concernant le travail. Mais on va avoir aussi d'autres villes, notamment Landerneau et Lesnesin, par exemple, qui vont finalement aussi attirer une part des déplacements pour le motif travail.
C'est le motif principal, le motif travail, en fait, vous le citez en premier, parce que c'est le motif principal pour les déplacements, c'est ça ?
Alors, c'est pas le motif forcément principal, hein, puisqu'il représente, alors j'ai plus exactement, très précisément, la donnée en tête, mais grossièrement, dans ce type d'enquête, hein, sur les grandes agglomérations, le motif travail, il représente environ un quart des déplacements, un peu moins, entre 20 et 25% de l'ensemble des déplacements. Malgré tout, dans les pratiques quotidiennes, le travail structure les autres déplacements aussi, c'est-à-dire par exemple l'accompagnement des enfants, mais aussi par exemple les pratiques de consommation, puisque on sait pour une partie non négligeable de la population que les courses, par exemple, s'effectuent à la sortie du travail. On a ce genre d'enchaînement en fait des pratiques au fil de la journée. Et donc, en fait, la localisation du travail va avoir aussi un impact sur les autres lieux qui sont fréquentés. Donc, c'est pour ça que je prends le motif travail en premier. C'est parce que on parle d'un motif qui structure les autres pratiques.
Et alors
les autres pratiques que sont la consommation, l'accompagnement ou les pratiques même récréatives.
D'accord. Et alors, pour la consommation, c'est pareil. Alors, c'est plutôt, c'est orienté quand même vers la grande ville ou pas ?
Alors, sur les motifs de consommation à proprement dit, moi, c'est pas quelque chose auquel je me suis attelé. J'ai fait deux catégories, en fait, le motif travail et le reste. Donc, c'est un petit peu grossier, mais je l'assume. Et l'idée de cette grossièreté, c'était de montrer un petit peu des pratiques assez différentes du point de vue des pratiques spatiales assez différentes. Et on observe effectivement des pratiques très différentes, puisque pour les motifs qui sont autres que le travail, on a des déplacements qui s'effectuent essentiellement et de façon très majoritaire au sein des communautés de communes. Donc il y a, je vous disais tout à l'heure qu'il y a sept communautés de communes, et on voit que si on enlève le motif travail, eh ben, on a plus de 80% des déplacements qui s'effectuent à l'intérieur des communautés de communes. Autrement dit, on a une part de déplacements à l'extérieur de ces communautés de communes qui sont une part qui est assez faible. Donc ça nous dit qu'on a on a des pratiques qui sont structurées en fait autour des pôles de proximité.
Et ça nous dit aussi que les communautés de communes sont finalement un échelon pertinent, alors peut-être.
Alors, ça dépend de la nature du déplacement et de son motif. Mais effectivement, pour tous les motifs de la vie quotidienne en dehors de ceux relatifs au travail, on a un intérêt à réfléchir à des modalités d'organisation des pratiques de mobilité à l'échelle des communautés de communes. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a des pratiques de déplacement qui s'effectuent dans des périmètres très restreints en fait. Puisque moi je vous dis que 80% de ces déplacements s'effectuent à l'intérieur des communautés de communes, et en fait un très grand nombre de ces 80% de déplacements, 80%, s'effectuent sur des distances relativement courtes. Donc on a aussi, il y a tout un intérêt à réfléchir à l'échelle des communautés de communes, à la façon dont on peut organiser des réseaux de déplacements pour, par exemple, le vélo ou la marche à pied. On a là des réflexions qui peuvent être assez intéressantes à l'échelle des communautés de communes et qui commencent d'ailleurs à s'organiser à cette échelle-là.
Et justement, ça nous amène aux moyens de transport. Quels sont-ils ? On suppose que majoritairement c'est la voiture, mais peut-être qu'il y a autre chose d'intéressant à souligner ?
Alors là, il va falloir distinguer encore une fois. Et les analyses qui sont produites aujourd'hui permettent pas d'avoir des distinctions très fortes, puisqu'elles distinguent le territoire entre Brest, puis Brest Métropole, et ensuite les couronnes périurbaines. Mais sur les parts modales de déplacement, à l'échelle du pays de Brest, on a une pratique de la voiture qui est assez importante. À l'échelle de l'ensemble du pays de Brest, en fait, la voiture individuelle, c'est le premier moyen de déplacement. Ça représente 67% des parts modales. On appelle ça comme ça. Donc 67% des déplacements sont effectués en voiture, 4% en transport collectif urbain, 2% en transport collectif interurbain, et ensuite 25% en marche à pied, le reste partageant entre les deux roues motorisées et le vélo. Et ensuite, on a, en fait, ces pratiques de déplacement, elles sont très différenciées selon où l'on réside, c'est-à-dire si on réside dans une ville, comme peut l'être par exemple Brest ou Landerneau, la part de la voiture, elle va être un petit peu plus réduite, et la part du vélo, de la marche à pied sera plus importante. Mais effectivement, on est là face à des moyennes qui négligent un petit peu les lieux d'habitat, en fait, les lieux de résidence des individus.
Et comme vous êtes vous intéressez souvent à la question sociale dans les déplacements, est-ce que là c'est plutôt territorial, mais est-ce qu'il y a aussi des déterminants sociaux sur le nombre de déplacements, le mode de déplacement ? Enfin, est-ce que vous avez pu étudier cet aspect-là ?
Alors, moi, je me suis pas particulièrement, dans cette enquête-là, attardé sur ces variations sociales de la mobilité, puisque je cherchais plutôt à renseigner les pratiques spatiales, on va dire, pour avoir une idée de la façon et de l'originalité de l'organisation de l'espace dans le pays de Brest. Mais effectivement, on retrouve certaines caractéristiques assez importantes en matière de pratiques de déplacement. Et une des caractéristiques qu'on retrouve, c'est par exemple le fait que les plus mobiles, ce sont les actifs qui ont entre 35 et 50 ans. Donc c'est ceux qui sont les plus mobiles, c'est-à-dire qui se déplacent le plus fréquemment et qui parcourent des distances assez importantes. Et en fait, c'est lié à la fois, premièrement, au fait qu'ils s'insèrent dans la vie active dans cette période-là. Il y a une insertion massive. Ce sont des actifs, et bien souvent, ce sont aussi des personnes qui ont fondé une famille et qui, donc, pour ces raisons-là, sont amenées à se déplacer, à accompagner leurs enfants, soit à l'école, soit à des activités de loisirs. Donc, ils se déplacent plus. Mais sinon, j'ai pas creusé plus que ça sur cette enquête-là, les différences de mobilité.
Et on parlait donc des communautés de communes, du fait que c'était finalement très cohérent. Est-ce que cet échelon Pays de Brest, est-ce que finalement l'essentiel des déplacements se situe à l'intérieur du Pays de Brest, tout déplacement confondu, hein, donc ça paraît un échelon cohérent aussi, structuré
Oui, effectivement, c'est un échelon qui est structuré. Il y a, il me semble, alors, bon, parce que je manipule avec ces enquêtes beaucoup de pourcentages qui diffèrent, mais il me semble que plus de 95% des déplacements s'effectuent à l'intérieur du pays de Brest. On a des échanges avec le Finistère et avec le reste de la France, et du monde même, mais on a effectivement la mobilité quotidienne qui est majoritairement à destination du pays de Brest, qui montre aussi l'intérêt de ce territoire, hein, ben c'est qu'on a des pratiques de déplacement qui sont plutôt orientées vers l'intérieur du pays de Brest. Ça varie en fonction des territoires, et notamment à Châteaulin, on a une ouverture au reste du Finistère, et notamment à Quimper, qui est plus importante. Mais ça donne effectivement une idée assez bonne des pratiques de mobilité et du fait que ces pratiques s'effectuent plutôt à l'intérieur du pays de Brest. Donc un échelon plutôt pertinent.
Et toutes ces manières de se déplacer, est-ce qu'elles ont évolué beaucoup ou pas ? Enfin, quelles ont été les évolutions depuis les dernières enquêtes qui ont été menées ?
Alors, la dernière enquête ménage qui a été réalisée, elle avait été réalisée à l'échelle de Brest Métropole en 2004. À l'échelle du pays de Brest, il est assez délicat de se prononcer sur la question des variations dans le temps, tout simplement parce qu'il y avait une petite enquête téléphonique qui avait été réalisée en 2004 à l'échelle du pays. Mais on s'est rendu compte que les données sont difficilement comparables, ou comparables, mais que sur certains points. Par contre, effectivement, à l'échelle de Brest Métropole, on bénéficie d'une enquête en 2004 et en 2018, qui ont été réalisées, ces deux enquêtes, de la même façon. Donc là, on a des comparaisons qui sont possibles. Et en plus, ces comparaisons, elles ont du sens, puisque entre 2004 et 2018, sur Brest Métropole, il s'est passé quand même bien des choses. On a eu des réorganisations successives du réseau de bus, on a eu l'arrivée de la ligne de tramway, l'ouverture de la ligne de téléphérique. Et un des résultats qui est assez, assez marquant, c'est sur Brest, Brest Métropole, c'est le retour de la marche à pied, notamment à Brest. Et la marche à pied, elle est redevenue finalement un moyen de déplacement comme un autre. Alors ça peut sembler assez paradoxal, mais l'explication la plus pertinente me semble être celle de l'effet tramway en fait. Parce que le tramway, comme mode lourd, il a permis en fait de réaménager les voies et les circulations et de faire un petit peu plus de place à la marche à pied dans l'espace public. Et on retrouve, hein, c'est une hypothèse assez forte qui est faite, et un de ces effets tramway, ce serait d'avoir généré un regain d'intérêt, un regain de pratique pour la marche à pied. Et le tramway, il a aussi généré une légère augmentation de la part modale des transports collectifs, puisque sur Brest Métropole, cette part modale, elle passe de 7,8% des déplacements effectués en transport collectif en 2004 à 8,4% des déplacements effectués en transport collectif en 2018. Alors l'augmentation, elle peut paraître assez faible, hein, parce qu'elle n'est que de 0,6 points, mais en fait, c'est pas rien. Loin de là, pour une ville comme Brest, et sur une temporalité assez courte, puisqu'on a que 14 ans, 15 ans d'écart entre les deux enquêtes. Donc c'est un indice assez encourageant du point de vue de la politique des transports qui est menée sur Brest.
Il y avait une distinction entre samedi et la semaine, mais ça, c'est pas vous spécialement.
Oui, alors, sur cette question-là, effectivement, donc c'est une particularité d'ailleurs de l'enquête brestoise à laquelle a beaucoup tenu Brest Métropole, et je pense que c'était effectivement une bonne idée. Donc en fait, ces enquêtes, elles recensent, les enquêtes ménages, les enquêtes standards, elles recensent les déplacements qui sont réalisés un jour normal de semaine. Bon, un jour normal de semaine, c'est en fait un jour du lundi au vendredi, les jours où la majorité des individus travaillent. Et là, sur cette enquête, Brest Métropole a souhaité réaliser une enquête sur la base du volontariat des enquêtés pour connaître leur pratique de déplacement un samedi. Moi, j'ai pas travaillé spécifiquement, parce que ça constitue une base de données à part à laquelle je n'ai pas demandé l'accès, en fait, tout simplement. L'ADEPA, donc, qui a étudié les pratiques de déplacement du samedi, a produit une donnée, quoi, une analyse assez intéressante et qui montre d'ailleurs ces données, l'exploitation de ces données par du samedi par la DEPA, elle montre de façon très intéressante le fait que ce jour-là, donc un jour de week-end finalement, bah, les déplacements qui s'effectuent en semaine plutôt pour le motif travail notamment des communautés de communes vers Brest, hein, eh ben on a ce jour-là un phénomène qui s'inverse. C'est-à-dire que les Brestois vont dans le pays de Brest et très certainement, à la fois pour rendre visite, hein, parce que c'est un motif assez important le week-end, rendre visite à la famille, à la fois pour rendre visite à la famille qui est installée dans le pays de Brest, mais aussi bah, pour des motifs de loisirs et de récréation, notamment aller se promener. Et pour le coup, les plus belles plages ne sont pas dans la rade et ne sont pas à proximité de Brest. Donc on peut effectivement, voilà, il y a cette structure des déplacements qui s'inverse presque hein, le week-end. Donc c'est assez intéressant effectivement.
Martin Clos, qui travaille sur d'autres projets liés au déplacement, nous le retrouverons prochainement sur ces sujets. En attendant, vous pouvez suivre les données et leur analyse sur un site internet dont nous mettrons le lien sur celui de Radio Évasion. Voici notre séquence d'énigmes scientifiques proposée par Sophie Kouka dans l'émission de la maison. Et voici l'énigme du jour. De mon vrai nom, Chang. C'est bien malgré moi qu'à un peu plus de 4 ans, j'ai été mêlé à un événement resté dans l'histoire. Ce jour-là, si j'étais mort, le sentiment général aurait été plus de la déception que de la tristesse. C'était en 1961. Je n'étais rien face à l'humanité, comme d'autres moi depuis. Alors, qui suis-je? Vous avez jusqu'à jeudi pour trouver la réponse. On termine avec quelques informations pratiques à présent. Une idée pour soutenir les commerçants artisans, si vous êtes client, ou même pour vous faire aider si vous-même êtes commerçant ou artisan, c'est la plateforme internet soutien-commerçant au pluriel, artisan au pluriel.fr. Il s'agit d'acheter dès à présent des bons d'achat qui seront utilisés à la fin du confinement. C'est en fait une avance sur trésorerie pour les commerces et les artisanats qui en ont bien besoin en ce moment. Des numéros de téléphone qui peuvent être utiles et malheureusement encore plus en période de confinement. L'un, c'est pour alerter sur les violences familiales. C'est le 119. On peut également agir en ligne. Et puis un autre, c'est pour les violences conjugales. C'est le 3919 en journée ou le 114 par appel ou texto. Il existe aussi des numéros pour les personnes qui souffrent de la solitude, comme celui de l'association SOS Amitié Brest, qu'on trouve facilement sur le net. Pour se remonter le moral, parmi les très nombreuses idées de confinés, voici le festival Je reste à la maison, dernier jour, puisqu'il a commencé mercredi, il se termine aujourd'hui. Et ce sont des acteurs de la musique et du concert qui se réunissent et qui lancent cet e-festival avec une programmation riche et diversifiée. De 16 à 17 heures, c'est pour le jeune public et de 17 à 22 heures, une dizaine d'artistes se relaient en Facebook Live de 30 minutes. Le hashtag, c'est Je reste à la maison. Voici la fin de l'émission de la maison spéciale coronavirus sur Radio Évasion. Merci de l'avoir suivi sur le 100.4 FM. Vous nous retrouvez du lundi au vendredi à midi et en rediffusion à 18h. Je vous rappelle que si vous souhaitez témoigner de votre vécu de l'épidémie dans le Finistère, vous nous contactez par mail redaction@radioevasion.net. Vous pouvez réécouter les interviews en podcast sur le site internet de Radio Évasion ou sur le Mixcloud Radio Évasion Covid-19.